Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est tout juste 11h à Jérusalem, 9h en temps universel.
Gaëtan Plenet.
Bonjour à tous. Le Hamas parle ce matin de crimes de guerre. Israël annonce suspendre l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza. Une réponse au refus du mouvement palestinien d'accepter la proposition américaine d'extension de la trêve dans Gaza. Le Hamas, lui, préférait s'en tenir au calendrier préalablement fixé, c'est-à-dire l'entrée en vigueur dès aujourd'hui de la deuxième phase du cessez-le-feu. On est en direct de Jérusalem dès le début de cette édition. Les Européens se réunissent à nouveau ce dimanche. Une fois de plus, c'est pour parler de la sécurité européenne et de l'Ukraine. Deux jours après l'altercation à la Maison-Blanche entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans ce journal également, une attaque contre une position de l'armée à Ekadé au Niger. Pas de bilan humain confirmé, mais le JNIM affilié à Al-Qaïda revendique et parle de 15 militaires nigériens tués. Et puis 28 ans après, un Burkinabé remporte à nouveau l'étalon d'or au FESPACO qui s'est terminé hier soir. Dany Kouyaté, sacré pour son film Katanga ou la danse des scorpions. Nous sommes le dimanche 2 mars, c'est aujourd'hui qu'était censé entrer en vigueur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, avec pour objectif de mettre un terme définitif à la guerre à Gaza. Une perspective qui semble pourtant s'éloigner davantage encore ce matin. Le Hamas voulait de cette deuxième phase, pas Israël, qui cette nuit a dit lui préférer un plan américain pour prolonger la trêve. Le Hamas refuse, nous ne reculerons pas, dit le mouvement palestinien. Et le ton monte maintenant. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem, Israël a notamment annoncé ce matin suspendre l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza.
Oui, tous les points de passage sont fermés depuis ce matin sur ordre du gouvernement. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre Netanyahou, c'est une première mesure. Il y aura d'autres conséquences au refus du Hamas d'accepter un nouveau plan américain de prolongation de la trêve pendant la durée du Ramadan qui vient de commencer et la Pâque juive. Une période d'environ 2 mois avec un échange prisonnier-otage dès le début de l'accord. On le souligne ici, c'est une décision qui a été prise par Israël en coordination avec les États-Unis. Réaction immédiate, le Hamas parle de crimes de guerre et de violation de l'accord de trêve. L'organisation islamiste propose, comme le prévoit l'accord qu'il a signé avec Israël, une seconde phase qui inclurait la fin de l'état de guerre et le retrait des forces israéliennes de l'ensemble de l'enclave palestinienne. Les préparatifs pour une reprise de la guerre en Israël se poursuivent et ce matin, une attaque de drones sur le nord de la bande de Gaza a fait 1 mort selon des sources palestiniennes.
Merci Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem. On continue évidemment à suivre tout au long de la journée sur RFI l'évolution de la situation au Proche-Orient. Plus de 2,7 milliards d'euros de prêts accordés par le Royaume-Uni à l'Ukraine, annonce faite hier à Londres après l'arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cet argent, nous dit-on, servira à soutenir les capacités de défense de l'Ukraine. Mais au-delà de la somme, c'est surtout une marque de soutien britannique après l'altercation de vendredi en plein bureau ovale à la Maison-Blanche lorsque Zelensky a été violemment pris à partie par son homologue américain Donald Trump, qui l'avait notamment menacé de le laisser tomber face à la Russie. La scène a choqué les Européens qui se réunissent aujourd'hui pour un sommet sur la sécurité européenne et sur l'Ukraine. Alors il était prévu avant ce sommet, avant cet épisode de tension à la Maison-Blanche, mais difficile d'imaginer que la quinzaine de dirigeants attendus dans la capitale britannique n'y reviendront pas. Les précisions depuis Bruxelles de Jean-Jacques Herry.
La plupart des participants qui seront présents aujourd'hui autour de la table ont publiquement soutenu l'Ukraine et son président après la déflagration qu'a été la scène du bureau ovale. Et aujourd'hui, dans la capitale britannique, ils doivent commencer à esquisser concrètement les contours d'une réponse et d'une posture commune face à une évolution géopolitique dans laquelle les États-Unis ne sont plus les protecteurs de l'Europe. Le risque, voir ces derniers se désengager de l'OTAN et donc la disparition du parapluie militaire et nucléaire américain. Un changement de paradigme total pour une Europe qui a tout à bâtir pour organiser ses outils de défense. À cet égard, l'idée d'une dissuasion nucléaire européenne partagée, demandée par l'Allemagne et dont la France se dit prête à discuter, pourrait être une piste selon Alain Deneuve, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense à Bruxelles.
À court terme, évidemment, la marge de manœuvre des Européens, elle est très étroite, voire pratiquement inexistante. La dimension européenne de la dissuasion nucléaire, elle pourrait permettre sans doute à l'Europe de gagner du temps pour reconstruire ses forces dans le cadre d'une protection supplémentaire et qui ne peut plus être celle qui était garantie autrefois par les États-Unis.
Se posera également la question du cadre dans lequel viendra s'inscrire la réponse européenne. Autant Union européenne, nouvelle structure, Une interrogation épineuse à laquelle il faudra pourtant commencer à répondre vite, très vite, pour des Européens qui doivent passer de la sidération à l'action, car le calendrier vient brusquement de s'accélérer. Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Et le porte-parole du Kremlin déclare que le changement radical de politique étrangère des États-Unis à l'égard de la Russie correspond, je cite, largement à la vision russe, déclaration faite ce matin à la télévision d'État. RFI, il est 10h05 à Niamey et à Ekadé, dans la région d'Agadez, où la hiérarchie militaire du pays est arrivée. La bourgade a été visée par une attaque terroriste revendiquée par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors, pas de bilan humain officiel pour le moment, mais les dégâts sont considérables. Le récit de cette attaque avec Lisa Fabian.
Des hommes lourdement armés montés à bord de pick-up ont surpris les soldats nigériens dans leur sommeil. Après de violents combats, les assaillants ont réussi à prendre le contrôle de la position militaire, si l'on en croit les images publiées sur les réseaux sociaux. Selon des sources sécuritaires, le poste avancé a été complètement détruit et pillé. Une section comptant 30 à 40 hommes y était positionnée. Dans un communiqué, le JNIM revendique avoir tué 15 militaires nigériens et fait 5 prisonniers dans cette attaque qui leur a également permis de mettre la main sur des armes et 3 véhicules militaires. La radio nationale a indiqué que 11 corps sans vie ont été enterrés ce samedi à Agadez. Le chef d'état-major des forces armées nigériennes et son adjoint ont assisté aux funérailles. Ils se sont également rendus sur les lieux de l'attaque, a-t-on appris. Ekadei est une zone rocailleuse, difficile d'accès, dont la défense est complexe vu son éloignement des premiers renforts militaires. Une source sécuritaire estime que les responsables de cette attaque meurtrière ne veulent pas que le passage de leurs marchandises par ce corridor soit perturbé par la présence des forces armées nigériennes.
Des précisions de Lisa Fabian. La Namibie a dit adieu hier à son père de l'indépendance. Sam Nujoma a été enterré dans un mémorial près de la capitale. Celui qui fut le premier président du pays est mort début février à l'âge de 95 ans. Des milliers de personnes ont assisté à ses obsèques. La journée avait été décrétée fériée. C'est devenu quasiment une habitude depuis le 14 février dernier, depuis que le pape François a été hospitalisé à Rome pour une pneumonie bilatérale. Il est toujours à l'hôpital et le Vatican nous dit ce matin que le souverain pontife a passé une nuit tranquille, mais son état s'était détérioré ces derniers jours après une crise respiratoire aiguë. Les médecins disent toujours évaluer l'impact de cette crise sur son état de santé. En France, nouvelle nuit en prison pour Mohamed Amra, et pas n'importe quelle prison. Depuis son arrestation en Roumanie samedi dernier au terme de 9 mois de cavale, celui que l'on surnomme la mouche et dont l'évasion en France en mai dernier avait coûté la vie à 2 agents de l'administration pénitentiaire. Depuis, il est de retour derrière les barreaux, mais cette fois dans le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe en Normandie, réputé pour être la prison la plus sécurisée du pays. Il y est à l'isolement, tout comme d'ailleurs d'autres personnes mises en examen dans cette affaire. Une prison chargée d'accueillir les détenus les plus dangereux, Laurence Théo.
Isolé en pleine campagne normande, le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe est réputé pour être une véritable forteresse, dotée de miradors, d'un double mur d'enceinte et de plusieurs centaines de caméras de surveillance. Mohamed Amra y est placé sous un régime d'isolement extrêmement strict, mais malgré cela, les surveillants prennent des précautions face à des détenus potentiellement très dangereux. Christophe de la CGT pénitentiaire donne un exemple.
On vient avec un chariot pour nourrir le détenu, pour lui offrir un repas. Vous avez 3 agents équipés complets de la tête jusqu'aux pieds, avec les casques, avec les visières en plexiglas. Glace et tout, très très costaud, et tout ça pour distribuer un repas.
Si les agressions sont loin d'être quotidiennes, pour Christophe, la peur fait partie du métier de surveillant.
Vous savez, quand vous voyez des collègues qui se font attaquer au couteau en céramique, vous voyez ça, vous voyez un directeur, hein, à coups de lame de rasoir, allongé par terre avec des filets de sang. Quand vous avez des collègues qui se font attaquer avec des gros pots de Nutella en plein visage. La peur, c'est pas forcément un mal, vous savez. La peur nous permet aussi de rester vigilants.
Condé-sur-Sarthe est l'un des 4 sites sélectionnés pour accueillir en juillet prochain les 100 plus gros narcotrafiquants détenus en France.
Précision de Laurence Théo. On se quitte avec du cinéma et la 29e édition du FESPACO qui s'est terminée hier soir à Ouagadougou. Rendez-vous incontournable du 7e art africain. L'étalon d'or revient à la maison. Il récompense le Burkinabé Dani Kouyaté pour Katanga, la danse des scorpions. Étalon d'argent pour le Somalien Mo Araoué avec Le village aux portes du paradis. Et puis le bronze pour la Zambienne Rongano Nyoni avec Devenir une pintade. Le cinéma continue ce soir aux États-Unis avec la cérémonie des Oscars qu'on ne manquera pas de suivre sur Radio France Internationale. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 10h10 à